avec l'innocence d'un bébé.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 5 septembre 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce que le gouvernement envisage de dissoudre le Parlement actuellement dominé par l'opposition. La Guinée enregistre son premier cas de Mpox au moment où la RDC, pays le plus touché, reçoit aujourd'hui près de 100 000 doses de vaccins. Au moins 20 migrants sont portés disparus à la suite du naufrage d'une embarcation en Méditerranée. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend en Haïti aujourd'hui pour apporter le soutien des États-Unis à la force multinationale. Et dans notre partie magazine, la criminalité à New York inquiète de nombreux habitants, certains imputant la responsabilité de cette situation à l'afflux de migrants illégaux.
Ce genre de mise en avant des cas isolés de migrants qui commettent des crimes est typique. Vous choisissez les histoires en mettant l'accent sur le négatif pour faire d'un certain groupe de personnes un bouc émissaire.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré hier que le gouvernement envisage de dissoudre le Parlement actuellement dominé par l'opposition et demander des comptes à des dizaines de personnes dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le point avec Eric Manilakid.
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Ousmane Sonko a assuré qu'il n'y aurait pas de motion de censure d'ici le 12 septembre et qu'après cette date, certains députés pourraient perdre leurs fonctions. Monsieur Sonko s'est exprimé alors que son gouvernement fait face à une motion de censure déposée par la coalition autour de l'ancien parti au pouvoir, majoritaire à l'Assemblée nationale. Le débat sur la reddition des comptes commence dès cette semaine, a-t-il affirmé, visant particulièrement les anciens dirigeants. Monsieur Sonko a également indiqué que les autorités ont déjà interdit certains déplacements à l'étranger. Les tensions entre le pouvoir et l'opposition ont freiné l'action gouvernementale. Jusqu'à présent, Sonko n'a pas encore présenté son discours de politique générale devant l'Assemblée. Toutefois, il a annoncé que le gouvernement soumettrait prochainement de nouveaux plans de développement public avec des priorités pour 2050 ainsi que pour les 5 ans et 10 prochaines années. La constitution sénégalaise permet au président de dissoudre l'Assemblée après 2 années de législature, ce qui serait possible à partir du 12 septembre, selon un avis du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin hier aux fonctions de 2 poids lourds de l'ancien régime, le président du Haut Conseil des collectivités locales et celui du Conseil économique, social et environnement.
En Guinée, une femme a été tuée par balle pendant des affrontements entre la police et des manifestants mercredi, selon une source policière. Le drame a eu lieu la veille des manifestations prévues contre la junte au pouvoir. La victime a été abattue alors qu'elle était dans un taxi et que des bagarres faisaient rage dans le quartier de Sanfonia, au nord de la capitale Conakry. L'opposition a appelé à manifester pacifiquement jeudi afin de dénoncer la répression de la junte envers les dissidents et pour demander un retour à un régime civil avant la fin de l'année. L'événement marquera également les 3 ans du coup d'État qui a porté le colonel Doumbouya au pouvoir. Par ailleurs, la Guinée a enregistré son premier cas de Mpox, a indiqué le ministère guinéen de la Santé. La RDC, pays le plus touché, reçoit aujourd'hui près de 100 000 doses de vaccins. Mouamadou Oumfa.
Une réunion d'urgence s'est tenue mardi sur instruction du ministre de la Santé avec l'ensemble de ses partenaires sur la notification du premier cas de l'épidémie de variole du singe en Guinée, a indiqué un communiqué du ministère diffusé mercredi. Il y a un premier cas dans la sous-préfecture de Koyama, préfecture de Macenta en région forestière, a précisé un fonctionnaire du ministère de la Santé qui a requis l'anonymat. Par ailleurs, une première livraison de près de 100 000 doses de vaccins contre le Mpox est attendue aujourd'hui en République démocratique du Congo pays le plus touché avec plus de 19 000 cas et plus de 650 décès depuis le début de l'année. L'épidémie est désormais présente dans 13 pays africains, dont le Burundi, le Congo-Brazzaville ou encore la République centrafricaine, selon les derniers chiffres de l'Agence de l'Union africaine.
Le président chinois Xi Jinping a reçu mercredi à Pékin plusieurs dirigeants africains pour le banquet d'ouverture du forum sur la coopération Chine-Afrique. Le président chinois a eu ces derniers jours des entretiens avec une dizaine d'entre eux, dont les présidents congolais Félix Tshisekedi, kényan William Ruto, sud-africain Cyril Ramaphosa et zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Xi Jinping va prononcer un discours aujourd'hui, jeudi, lors de la cérémonie officielle d'ouverture du sommet qui s'achève vendredi. Au Cameroun, un accident de la circulation près de la ville de Chang dans l'ouest du pays a fait 8 morts et 62 blessés dans la nuit de mardi à mercredi, ont indiqué les autorités locales selon la radio d'État CRTV. Un véhicule gros porteur qui transportait des passagers de Fumbo dans le département de Noun vers la ville de Douala a terminé sa course dans un ravin à la suite d'un dysfonctionnement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 20 migrants sont portés disparus à la suite du naufrage d'une embarcation en Méditerranée près de l'île italienne de Lampedusa. Claire Morin-Gibault.
Les gardes-côtes italiens ont secouru hier une embarcation à la dérive et sur le point de couler avec 7 migrants à bord, tous des hommes de nationalité syrienne. Les personnes secourues ont déclaré qu'elles étaient parties le 1er septembre de Libye avec 28 candidats à l'immigration. 21 seraient tombés à l'eau en raison des mauvaises conditions météo. Accueillis par les équipes du HCR à Lampedusa, les survivants sont dans un état critique. En 2023, plus de 3000 migrants ont été portés disparus après avoir tenté de traverser la Méditerranée selon l'Organisation internationale pour les migrations. D'après le ministère italien de l'Intérieur, les arrivées par la mer ont baissé depuis le début de l'année. Plus de 43 000 personnes sont arrivées en Italie au 4 septembre contre plus de 115 000 en 2023.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rend en Haïti aujourd'hui pour apporter le soutien des États-Unis à la force multinationale censée ramener la sécurité dans ce pays ravagé par la violence des gangs. Le point avec Dili Diko.
Le déplacement du chef de la diplomatie américaine, le premier d'un secrétaire d'État américain en Haïti depuis 2015, intervient au moment où cette force de police dirigée par le Kenya tarde à livrer des résultats concrets pour les Haïtiens. Monsieur Blinken, qui se rend demain en République dominicaine, doit rencontrer à Port-au-Prince le nouveau premier ministre, Gary Conille. Les membres du Conseil de transition et le commandement de la force multinationale et de la police haïtienne, selon le département d'État. La mission multinationale d'appui à la sécurité, soutenue par les Nations unies, doit aider la police haïtienne à rétablir l'ordre dans le pays miné par la criminalité et des décennies de crises politiques et de catastrophes naturelles. Deux contingents ont été déployés à ce jour dans le pays, 200 policiers kényans à la fin juin, suivis de 200 autres à la mi-juillet. Quelques 600 autres doivent encore arriver. C'est encore bien loin des 2500 policiers prévus.
Au moins 4 personnes ont été tuées et 9 blessées hier, mercredi, lors de tirs dans un lycée en Géorgie aux États-Unis. Le suspect est en détention, a déclaré le bureau des enquêtes de l'État. Le tireur serait un adolescent de 14 ans. Nathalie Barge.
De nombreux véhicules de secours et un important dispositif policier ont été dépêchés sur place au lycée Appalachie de Winder, à 70 km d'Atlanta. Dans un premier temps, l'établissement a été placé en état de confinement et des blessés ont été soignés sur place par des secouristes. Les élèves ont ensuite été évacués ou regroupés sur un terrain de sport. Nous ne pouvons accepter que cela devienne la norme, a déclaré dans un communiqué le président Joe Biden, appelant à nouveau à l'interdiction des fusils d'assaut. Lors d'une conférence de presse, le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a déploré une terrible tragédie. Les États-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades en milieu scolaire. En mai 2022, 19 enfants et 2 enseignantes ont été victimes d'une tuerie dans leur école d'Uvalde au Texas. La fusillade avait été commise par un jeune de 18 ans à l'aide d'un fusil d'assaut acheté légalement.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibault.
La capitale gabonaise Libreville connaît de fortes perturbations d'approvisionnement en électricité en raison de la baisse du niveau de plusieurs barrages et d'incidents dans 2 centrales électriques alimentant la ville. Pour la première fois, le fournisseur d'électricité a annoncé les horaires de ces coupures, alors que depuis plusieurs jours, des quartiers entiers de la ville sont privés tour à tour d'électricité, de nuit comme de jour. À l'occasion du forum sur la coopération sino-africaine à Pékin, la Chine a signé de nombreux accords avec le Tchad et le Sénégal concernant des projets allant de l'électricité et des infrastructures à l'eau potable et aux technologies de communication. Le premier bailleur de fonds bilatéral au monde, qui accueille 50 nations africaines, souhaite réorienter ses relations avec les économies en développement autour de « petits et beaux projets », selon les mots du président Xi Jinping, plutôt que les infrastructures de grande envergure. Le Togo est devenu le 50e État membre de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, organisation affiliée à la Banque islamique de développement. L'adhésion d'un pays côtier d'Afrique de l'Ouest est une belle expansion pour la SIACE et ouvre de nouvelles perspectives économiques pour le Togo.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Suite au jeudi des matchs de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Oui, 7 matchs au programme aujourd'hui. Le Malawi reçoit le Burundi dans le groupe F. À suivre également, République centrafricaine Lesotho dans le groupe B. Le Congo lui joue face au Soudan du Sud dans le groupe J. Et puis dans le groupe D, le Ghana reçoit l'Angola. La Guinée-Bissau, elle, va faire face à l'Eswatini. L'Algérie reçoit également la Guinée équatoriale et puis la Tunisie accueille Madagascar. Hier, le Soudan s'est imposé devant le Niger 1-0. Un but partout entre les Comores et la Gambie, même score entre la Libye et le Rwanda. 0 but partout entre la Tanzanie et l'Éthiopie. Pour rappel, 48 sélections réparties en 12 groupes de 4 équipes s'affrontent de septembre à novembre de cette année. Il est prévu 2 journées couplées lors de chacune des 3 fenêtres FIFA prévues sur cette période. Seuls les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale prévue au Maroc.
Et puis le Cameroun, lui, joue ce samedi contre la Namibie à Garoua après une rencontre hier entre le Premier ministre et les joueurs.
La FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, avait prévu Douala pour le rassemblement des joueurs et Garoua pour le match. Le ministère des Sports lui a fait regrouper les joueurs à Yaoundé et voulait faire jouer le match sur place dans la capitale camerounaise. Mais dans un communiqué lu hier à la télévision nationale, le premier ministre Diong Goûté a annoncé avoir pris acte de la décision de la CAF de faire jouer le match contre la Namibie au stade Rundé Adja de Garoua. Tout s'est décanté donc hier, selon Mohamed Molou, journaliste au quotidien camerounais, Le Messager.
C'est allé un peu très vite après le courrier du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Blaise Duna, qui menaçait les joueurs en stage du côté de l'hôtel Hilton Yaoundé de regagner au plus tard ce jour même à Douala leur base affrétée par la Fédération camerounaise de football. Et dans la foulée, les U20 du Cameroun, qui étaient d'ores et déjà en stage préparatoire au tournoi UNIFAC, ont été appelés comme plan B. Heureusement, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goûté, a décidé donc de convoquer l'ensemble des joueurs de l'équipe Fanion du Cameroun. Le chef du gouvernement a demandé aux joueurs de faire preuve de patriotisme et a laissé clairement entendre que seule la Fédération camerounaise de football et bien sûr la Confédération africaine étaient à même de décider où devait se jouer la rencontre du 7 septembre prochain. Et les feux sont au vert pour ce qui est de la ville de Garoua où la vente des billets par la Fédération Camerounaise de football a démarré depuis pratiquement 48 heures déjà.
Mohamed Moulou, journaliste au quotidien camerounais Le Messager.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Conflit au Soudan, trois organisations viennent de publier un rapport mettant en lumière l'escalade de la catastrophe humanitaire au Soudan, où le conflit provoque une crise alimentaire d'une ampleur sans précédent. Le rapport est basé sur des témoignages provenant de régions telles que le Darfour, Khartoum et le Kordofan, où des personnes sont poussées au bord de la survie, non seulement à cause de la violence, mais aussi de la faim et de la famine. Pour en parler, Alexandrine Holognon a joint Sarah Casteran, conseillère régionale en matière de politique et de plaidoyer pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe pour l'ONG Mercy Corps. Elle est l'un des auteurs de ce rapport.
Ce rapport, c'est un partenariat entre Mercy Corps, le Conseil norvégien pour les réfugiés et le Conseil danois pour les réfugiés. Il met la lumière sur une crise qui est absolument catastrophique et qui jusqu'à présent n'a pas reçu le niveau d'attention qu'elle mérite. Pour rappel, il y a aujourd'hui plus de 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population soudanaise, qui sont confrontées à une faim aiguë, dont presque 800 000 personnes au bord de la famine. Et une famine a d'ailleurs pu être confirmée dans un camp déplacé du Darfour Nord grâce à l'accès à suffisamment de données sur la situation. Mais dans le reste du pays, où cet accès aux données est plus difficile, on sait que des conditions similaires font déjà des morts, en particulier chez les enfants. Donc pour ce rapport, les équipes de Mercy Corps et nos partenaires au Soudan ont parlé à beaucoup de personnes qui rapportent une situation qui est très difficile à entendre, honnêtement, où les gens n'ont quasiment plus d'accès à la nourriture. Ils passent parfois plusieurs jours sans manger, où ils se nourrissent de terre, de feuilles d'arbres ou même de coquilles de cacahuètes pour survivre.
Votre rapport dénonce également le peu de communication autour de ce conflit et de ses répercussions. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a peu de communication sur le conflit au Soudan et surtout sur la famine que subissent les personnes touchées?
Nous savons très bien que le monde est confronté à plusieurs crises d'une grosse ampleur aujourd'hui qui demandent beaucoup d'attention et à juste titre. Mais ça ne peut vraiment pas être une excuse pour le peu d'attention qui a été donnée au Soudan aujourd'hui, où les populations font face à la plus grosse crise alimentaire dans le monde, je le rappelle, et également à la plus grande crise de déplacement au monde. Ce qui a pu pousser à moins d'attention, c'est également le fait que les médias et certaines organisations ont un accès limité aux zones affectées par le conflit au Soudan, et donc nous manquons de rapports sur la situation. Donc justement, grâce à ce rapport que nous venons de publier, nous avons pu mettre en avant les situations des personnes qui vivent dans des zones qui sont difficiles d'accès, et on espère vraiment que ça contribuera à plus d'attention de la part de la communauté internationale.
Au regard des obstacles que vous venez de citer, comment la communauté internationale pourrait-elle mieux répondre à cette crise?
Déjà, il y a la question des financements. Le plan de réponse humanitaire pour le Soudan est actuellement financé à 41%, ce qui, quand on voit l'ampleur de la crise, est vraiment inacceptable, d'autant plus que les besoins ont continué d'augmenter cette année et continuent d'augmenter tous les jours. Au moment où ce plan a été mis en place, il n'y avait pas de famine au Soudan, par exemple, et les besoins n'étaient pas aussi catastrophiques qu'ils le sont aujourd'hui. Donc vraiment, on a besoin de plus de financement pour le Soudan aujourd'hui. On a également besoin de plus d'efforts diplomatiques de la part des gouvernements dans le monde pour améliorer l'accès humanitaire et protéger les populations et les infrastructures et objets qui leur sont vitaux. Et également tenir les parties au conflit responsables pour le rôle qu'elles jouent dans la crise humanitaire et surtout la crise alimentaire aujourd'hui.
Sarah Casteran, conseillère régionale en matière de politique et de plaidoyer pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe pour l'ONG Mercy Corps. Au moins 129 personnes sont mortes dans une tentative d'évasion à la prison Makala à Kinshasa lundi, dans des conditions qui restent confuses. Eddy Isango a joint à Kinshasa dans la commune de Lingwala la famille d'un des prisonniers décédés. La sœur du décédé, Francilian Galula, témoigne sur le décès de son frère Khaled Ipeke Dilumbangi.
Je réponds au nom de Francilian Galula.
Oui, vous êtes à Kinshasa. Mais
allô? Oui, vous avez donc perdu, vous avez donc perdu quelqu'un dans la prison des
Mon
Makala,
petit frère, oui, oui. Mon petit frère, Caleb Ipeke, Yulubangi, qui est à l'âge de 23 ans.
Il était donc incarcéré à la prison des Makala Seperka, c'est ça?
Depuis le 1er janvier 2024. Jusqu'aujourd'hui.
Mais comment avez-vous appris les décès de votre frère dans ces troubles qui ont eu lieu à la prison de Makala?
On était allé là-bas à la recherche et puis on nous a donné les numéros de la personne qui était avec lui au pavillon 5, qui nous a informé qu'il était décédé depuis le matin.
Avez-vous vu son corps?
Non, pas encore.
Et vous êtes adressé aux autorités de la prison pour demander si vous pouvez voir les corps. Et vous ont-ils confirmé que votre frère est décédé?
Non, pas encore. On est tenté seulement de chercher partout, dans les hôpitaux, dans les morgues, mais on n'a pas encore trouvé.
Vous êtes-vous adressé aux autorités de la prison et de la justice pour ça?
Oui.
À qui? Expliquez-nous un peu. Quelles sont les démarches que vous avez faites?
Bon, en fait, on cherche seulement nous-mêmes. On n'a pas encore remplacé les membres des autorités. On cherche seulement nous-mêmes dans la famille.
Mais comment êtes-vous sûr que votre frère est décédé? Est-ce que vous avez demandé la confirmation aux autorités de la prison, ne fût-ce qu'aux autorités de la prison ou au gouvernement?
Oui, oui, on avait demandé. Au prison, on avait demandé et puis on nous a confirmé qu'il était déjà mort depuis le matin de lundi. Il était déjà mort.
Qui a dit ça? Les autorités de la prison?
Oui.
Et qu'est-ce que cette nouvelle vous a fait? Je ne sais pas votre frère ce qu'il a fait, mais qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Comment vous vivez cela?
Je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que je n'arrive même pas à vous expliquer ça. Donc, je n'arrive même pas.
Toute la
famille, on est là, mais je ne sais pas. Si je parle comme ça, c'est tellement pour la force, en fait. Je ne peux pas même causer comme ça parce qu'on n'est pas bien.
Vous êtes en deuil?
Oui, oui, on est en deuil.
Francine Galoula, sœur d'un prisonnier décédé dans la tentative d'évasion à la prison de Makala. Les deux principaux partis politiques américains s'inquiètent à l'approche des élections de novembre de l'intégrité des élections, c'est-à-dire du processus d'enregistrement, de dépôt, de comptage et de certification des votes, ainsi que du traitement adéquat de tout problème grave qui pourrait survenir. Pour en savoir plus, le correspondant national en chef de la VOA, Steve Herman, au Capitole. Récit Lionel Gaïma.
Les démocrates accusent les républicains de limiter l'accès au bureau de vote et de comploter pour entraver la certification des résultats. Les républicains soupçonnent les agents du Parti démocrate de trafiquer les bulletins de vote des électeurs absents, de manipuler les machines à voter et de maintenir les électeurs inéligibles sur les listes. Le candidat républicain, l'ancien président Donald Trump, fait objet de poursuites pénales pour avoir tenté d'annuler sa défaite électorale de 2020.
J'ai pensé que l'élection était une élection truquée, une élection volée.
La candidate du Parti démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, accuse Trump de saper la confiance des élections alors qu'elle s'engage à défendre les principes américains fondamentaux.
De l'état de droit, des élections libres et équitables, au transfert pacifique du pouvoir.
Les agences fédérales ont mené des exercices de simulation en pensant au 6 janvier 2021, date à laquelle les partisans de Trump, mécontents de la défaite du président, ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis. La préparation a-t-elle renforcé l'intégrité des élections? C'est ce qu'espèrent des acteurs tels que la League of Women Voters, vieille de 104 ans, dont la directrice générale est Selena Stewart.
Je suppose qu'il faut attendre et voir. Nous devrons voir ce qu'il se passe, le résultat de l'élection, ce que les gens pensent, les protestations qu'il y aura, et si ces protestations vont jusqu'à la violence. Et j'espère que ce ne sera pas le cas.
Jusqu'à présent, cette année, le système a bien résisté, selon le président de la Commission fédérale d'assistance électorale, Ben Hovland.
Nous avons déjà eu beaucoup de primaires, à la fois les primaires présidentielles de cette année, les primaires des États, et par conséquent, les fonctionnaires électoraux ont déjà eu beaucoup de pratiques cette saison, et je pense que nous sommes en bonne forme pour le mois de novembre.
Dans le comté de Champaign, dans l'État de l'Illinois, le parti républicain local a tenté en 2020 de demander à un juge d'obliger le greffier du comté, Aaron Amos, à cesser de compter les bulletins de vote envoyés par la poste.
Il a rejeté cette demande et j'ai pu compter les bulletins. Mais ils ont vraiment essayé, comme ils l'ont fait dans d'autres endroits du pays.
Selon Aaron Amos, les menaces, l'intimidation et les poursuites judiciaires ont poussé de nombreux fonctionnaires électoraux et bénévoles à démissionner dans tout le pays.
Cela ne rend pas service et c'est vraiment décourageant pour les personnes qui font ce travail si nous ne recevons pas le soutien dont nous avons manifestement besoin pour être en première ligne de la démocratie.
Il est important d'inviter les candidats, les responsables des partis et le public à observer le fonctionnement du système, selon le directeur des élections du comté de St. Louis, Missouri, Eric Fay.
L'ouverture des bulletins de vote par correspondance, le dépouillement des bulletins, le test de l'équipement de vote, le recomptage manuel, l'audit après l'élection, tout cela est observable publiquement.
Les dirigeants républicains du Sénat veulent faire passer une loi qui obligerait les personnes qui s'inscrivent pour voter à fournir une preuve de leur citoyenneté. La plupart des démocrates ici au Capitole soutiennent que la loi interdit déjà aux non-citoyens de voter aux élections fédérales et qu'il n'y a aucune preuve pour étayer les affirmations selon lesquelles les immigrés clandestins en grand nombre votent.
La criminalité à New York inquiète de nombreux habitants, certains imputant la responsabilité de cette situation à l'afflux de migrants illégaux au cours des deux dernières années. Nathalie Barge relate un reportage d'Aaron Ranen qui a rencontré des officiels, des militants et des migrants.
La question du statut de sanctuaire de la ville de New York a atteint un point de rupture en janvier près de Times Square où un groupe de migrants a attaqué deux policiers. La police locale ne peut pas coopérer avec les autorités fédérales de l'immigration. Lorsque les migrants sont reconnus coupables de crimes et libérés, l'immigration n'est pas informée, ce qui empêche les expulsions. Marie Schultz, résidente de New York.
Je pense que les tribunaux devraient communiquer avec le contrôle de l'immigration et des douanes et se débarrasser des personnes qui commettent des crimes.
Les militants pour les migrants ont le sentiment que le problème est exagéré. Ilse Tillman, directrice du groupe d'aide aux migrants Team TLC.
Je pense que le statut de sanctuaire doit être maintenu. Ce genre de mise en avant des cas isolés de migrants qui commettent des crimes est typique. Vous choisissez les histoires en mettant l'accent sur le négatif pour faire d'un certain groupe de personnes un bouc émissaire.
Lors d'une conférence de presse le 27 août, le maire de New York, Eric Adams, a exprimé son point de vue sur la modification du statut de sanctuaire de la ville.
Les personnes qui commettent des actes de violence sur les New-Yorkais et d'autres migrants, demandeurs d'asile et personnes sans papier ne devraient pas rester dans notre pays après avoir purgé leur peine.
Ken Gennaro du service de l'immigration et des douanes expose aussi son point de vue.
Nous voulons juste des changements mineurs qui nous permettent de collaborer avec la police de New York et d'arrêter ces individus et de les sortir de la rue.
Gennaro affirme qu'il n'existe aucune donnée sur la criminalité des migrants à New York. De nombreux migrants sans-abri campent dans des tentes sur Randall Island. Certains disent qu'après le coucher du soleil, l'atmosphère change. Monsieur Diallo, migrant sans papier.
Quand vous êtes dehors, vous ne vous sentez généralement pas en sécurité parce qu'il y a beaucoup de monde. Ils ont une arme, certains d'entre eux ont un couteau.
La question est ainsi de savoir si New York peut continuer à être une ville sanctuaire tout en garantissant la sécurité de tous ses habitants. Et la réponse pourrait peut-être façonner l'avenir de la ville et de ses politiques.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero à son micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X, Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.